Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC, c'est votre podcast Formule 1. Tous les lundis désormais, et oui, tous les lundis désormais, vous avez un épisode du paddock RMC sur les applis de téléchargement et sur rmcsport.fr. On rentre dans le vif du sujet direct. Ce lundi, débrief du Grand Prix de Chine, retour de la Formule 1 en Chine même, et quatrième victoire déjà pour Max Verstappen. Le scénario aurait pu être fou, mais il est trop fort, beaucoup trop fort pour la concurrence. Heureusement, il s'est passé plein d'autres choses dans cette belle course. Les ingénieurs du paddock RMC, tout juste descendu de l'avion. Il a plus de miles réunis que l'ensemble du paddock. C'est Jean-Luc Roy. Salut mon Jean-Luc.
Ouais, salut mon Nico, bonjour à tous.
C'est vrai que ça commence à faire, hein, tes années de voyage, tout ça là. Au niveau miles, tu dois pas être mal.
Bah, m'en parle pas. Bah, écoute, je pense à racheter Air France, mais bon, finalement, j'attends un petit peu là pour le moment.
Ah là là, on va te voir redébarquer en sponsor dans le monde de la Formule 1.
Et vous pourrez voyager gratuit.
Ah merci, merci.
Je vous en prie, ça me fait plaisir.
L'équipe qui complète le paddock RMC avec Jean-Luc, Paul Lafitte et Alex Calvi, notre créateur de contenu. Salut les gars.
Hello.
Salut Nico, salut Jean-Luc, bonjour à toutes.
Salut jeune Jean.
On ne va pas tergiverser, on va revenir tout de suite sur ce Grand Prix de Chine.
We are set now for the first sprint of the season here in front of 60,000 fans in Shanghai. It's lights out and away we go. It's a great start from Lewis Hamilton. Verstappen starts the 2024 sprint with victory in Shanghai.
One day later.
The Chinese Grand Prix is underway.
Il y a 56 tours à parcourir de ce tracé long de 5 km 451. Nous sommes actuellement dans le deuxième tour. Verstappen a parfaitement réussi son départ. En revanche, c'est Fernando Alonso qui est parvenu à devancer Sergio Perez.
Safety car is out once again.
Deux incidents ou accidents qui sont produits en même temps. Le premier, il est incroyable, c'est Lance Stroll apparemment qui s'est trompé de pédale. Et puis dans l'intervalle, eh bien, il y avait une bagarre, alors là, régulière sur la piste entre Tsunoda et Magnussen. Les deux se sont frités assez fort. Oh, du côté des Français, Ocon 12e et Gasly 16e, toujours pénalisé par cet arrêt au stand.
Ah,
on a fait retomber la voiture sans avoir mis la roue arrière droite, c'est quand même très ennuyeux.
Pourquoi faire ?
Verstappen, après le feu vert au 32e tour, donc il y a 20 tours maintenant, a creusé un écart de 11 secondes exactement.
Max Verstappen crosses the line to take victory in Shanghai.
Mais non, on n'en a pas marre quand même, parce que c'est un super champion ce Max Verstappen. Quatrième victoire de la saison, on le disait. 30e victoire sur un circuit différent, hein, pour Verstappen. Ça commence à faire, il a en plus gagné la course sprint. Alors je vais vous donner le classement de ce Grand Prix de Chine. Du coup, Verstappen premier, 13 secondes 773 d'avance sur Lando Norris et sa McLaren qui s'intercale entre les deux Red Bull. Sergio Perez complète le podium, il est à 19 secondes de son coéquipier. Charles Leclerc quatrième, qui a eu un peu de mal à 23 secondes 623, on y reviendra. Devant, Carlos Sainz à 34 secondes, George Russell 6e, Fernando Alonso 7e alors qu'il a fait une fin de course de folie, Oscar Piastri est 8e, Lewis Hamilton 9e, Nico Hülkenberg 10e. Et puis, il y a du mieux pour Alpine, les gars. Ça nous fait du bien de dire ça. Une semaine après notre podcast,
enfin.
Où on a, enfin. Esteban Ocon 11e, ouais, aux portes des points. Gasly 13e, Zhou à la maison termine 14e. Et puis donc, vous l'avez entendu dans la prod de l'excellent Romain Leroutier, l'accident entre Ricciardo et Stroll. Voilà, Ricciardo qui est out comme Tsunoda et Valtteri Bottas au classement des pilotes. Verstappen s'envole, hein, 110 points. Il a quasiment plus de 30 points d'avance même sur Sergio Perez. 85 points, Charles Leclerc est 3ème, Carlos Sainz 4ème, Norris remonte et creuse l'écart avec Piastri, hein, 20 points d'avance sur son coéquipier, Lando Norris est 5ème. Et au classement des constructeurs, Jean-Luc, hein, c'est déjà un gros écart au bout de 5 Grands Prix seulement. Red Bull 195 points, 54 points d'avance sur Ferrari, c'est colossal au bout de 5 courses. Jean-Luc, je vais te lancer direct sur la victoire de Verstappen. Alors, ce Grand Prix a été perturbé par l'entrée de la voiture de sécurité par deux fois. Ça a été déjà un très beau Grand Prix en termes d'ambiance, on aura le temps d'y revenir, mais il s'est passé plein de choses. On a vu une vraie ferveur, une communion de dingue entre les fans chinois de Formule 1 et les pilotes, et malgré tout ce qui s'est passé, Verstappen il a pas bougé, quoi.
Écoute, on n'avait jamais vu autant de monde déjà sur le tracé, parce qu'il faut croire que l'effet Zhou a été bien exploité. Il a dit lui-même d'ailleurs que tous les jours qui ont précédé le Grand Prix, il avait tout un tas d'opérations populaires également, et on sait que quand même en Chine, ils sont à peu près 1,4 milliard, donc il a vu du monde juste avant le Grand Prix, et ça a fonctionné, puisqu'on sait qu'il y a une tribune qui était toute neuve, mais qui n'a pas été homologuée avant le Grand Prix, où on pouvait mettre 40 000 personnes de plus, et apparemment, ils auraient vendu les places sans aucun problème. Donc si le contrat est reconduit, et il est normalement jusqu'en 2025 d'après les infos qu'on a, et je pense qu'avec l'effet Zhou, à mon avis ça va continuer. Ouais. Donc ça, c'est un succès populaire absolument formidable, et ça fait plaisir de voir qu'effectivement la F1 devient populaire en Chine. Bon, l'effet on le connaît, dès qu'il y a un pilote d'une nationalité, forcément, avec un petit peu de chauvinisme, les gens du pays concerné viennent au rendez-vous. Alors maintenant, tu parlais de la victoire de Verstappen, écoute, il est très fort, certains diront qu'il est trop fort, il n'y a rien à dire là, il enfonce toutes les portes, et effectivement pourtant, du côté de la direction de course, on a fait tout ce qu'il fallait, parce qu'on lui en a mis des.
Ah oui.
Ouais. Bon, le premier m'a fait un peu rigoler, moi, avec la réflexion, parce que Bottas, bon, qui pète le moteur apparemment, il s'arrête à peu près à 250 mètres du circuit, donc j'exagère, à un endroit qui n'est pas dangereux du tout. Les commissaires sont un peu embêtés, c'est un euphémisme pour sortir la voiture de là. C'est d'ailleurs assez rigolo quand tu vois l'IndyCar, parce qu'en parallèle, il y avait la course de Long Beach à côté. Tu as vu le temps qu'ils mettent à évacuer une voiture, ils ont des petits lèvres vite à l'arrière. Là, les commissaires, ils étaient à 15 en train de pousser la voiture dont la boîte était bloquée. Enfin bref, passons. Donc ça veut dire VSC, ça veut dire qu'on regroupe tout le monde, pratiquement dans l'immédiat, et puis on remet le verre au 27e tour, et immédiatement on a compris que Verstappen s'en va et qu'il n'y a pas grand chose à faire de ce côté-là, que de toute façon, entre-temps, bien sûr, il s'était arrêté au stand pour changer de pneumatique. Au 14e, il avait délaissé les médiums pour monter les durs, et puis au 24e, on profite évidemment de l'interruption. Donc, écoute, on va dire qu'il déroule la partition d'une manière merveilleuse, et comme toujours, même si Pérez ne démérite pas, bien au contraire, Pérez, évidemment, reste un petit peu dans l'ombre, lui qui s'est fait devancé au moment du départ par un Alonso magnifique, mais on va y revenir.
Ouais, c'est ça en fait, Paul, le truc avec Verstappen, c'est que quel que soit le scénario de la course, tu peux te dire que par deux fois, bon, il y a des petits aléas. Alors ça, c'est Max Verstappen, c'est un super champion, il en a connu une autre, mais tu peux te dire que ça peut peut-être venir troubler un petit peu son week-end, pas le mettre sous pression, mais voilà, que ça peut le faire un petit peu douter. Pas du tout, il est focus sur son objectif, chaque restart, il gère ça parfaitement, enfin voilà quoi, il est maître de n'importe quelle situation. Et en fait, après ce Grand Prix là, même si c'est que le 5e GP de la saison, tu te dis en fait, il peut se passer n'importe quoi, le gars, il est quasiment sûr de gagner. En fait.
C'est le big boss, comme le disait Jean-Luc, comme le dit Alex depuis le début de cette saison, à l'exception évidemment de son problème mécanique en Australie. Lorsqu'il décide, eh bien, il signe les pole positions, les records du tour, la course sprint, on avait vu manquer un petit peu sa qualification dans des conditions un petit peu délicates, partir quatrième et finalement coller 13 secondes à Lewis Hamilton sur une course sprint. Il fait ce qu'il veut, c'est le patron. Et Jean-Luc, toi qui suis la F1 depuis de nombreuses années, on n'a pas souvenir d'avoir vu une telle domination. On pense à Sébastien Vettel, on pense à Ayrton Senna, on pense aux années Prost, aux années Lewis Hamilton. Il domine de la tête et des épaules. C'est un cadeau, Nico. Tout le monde en a conscience. Au volant de la meilleure des Formule 1, des monoplaces, on voit mal comment il pourrait s'arrêter en si bon chemin. Et j'ai presque déjà envie de dire que le championnat, pour moi, est déjà plié avec ce diable de pilote hollandais.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'on l'annonçait un peu dès le début de la saison. On lançait à peine la saison qu'on avait annoncé le titre de Verstappen. Mais bon, on va pas faire très long sur la course de Verstappen. Mais malgré tout, quand même, ce sang-froid, cette capacité à gagner dans n'importe quelle situation est assez impressionnant à chaque week-end de course. On va surtout s'arrêter, Alex, aussi sur la perf de Lando Norris, qui s'attendait pas à être aussi bon. Clairement, il l'a dit lui-même, j'ai été troublé. Il disait, je pensais qu'on allait peut-être être à 30 secondes des Ferrari. Au final, on a été bien mieux qu'eux. Il a été très bon, Norris. Et franchement, ça lance véritablement son début de saison. Même s'il était solide depuis le début, là, c'est vraiment la course qui lance son début de saison.
Ouais, c'est même la surprise de Norris, c'est la surprise McLaren, dans le sens où McLaren, on ne les attendait pas là, surtout au niveau de la dégradation des pneumatiques. Ils avaient expliqué justement avant le Grand Prix comme quoi on était sur une situation du côté de chez McLaren. On arrive en Chine pour faire du damage limitation. On veut limiter les dégâts. Bon, j'aimerais bien limiter les dégâts comme ça tout au long de la saison quand on est dans une situation difficile du côté de chez McLaren. Mais ça a été très très fort, réellement. Il y a eu la pole position en sprint qualifying. Ça a été aussi un moment important parce que c'est dans des situations comme ça que l'on voit les grands pilotes, justement, parce que la SQ3 qui s'est déroulée, c'était dans des conditions assez dantesques, il fallait s'adapter extrêmement rapidement, et Lando Norris a réussi justement cet énorme pari d'aller chercher la pole position, quand justement au parallèle Max Verstappen a été en grande difficulté à mettre justement sa monoplace sur le mouillé dans des bonnes dispositions. Lando Norris a été très fort, malheureusement il y a le parallèle par rapport à son coéquipier Oscar Piastri, où lui il n'a pas été si excellent, même au-delà dans tout le week-end de Grand Prix, mais même il a fait ce qu'il fallait faire, on va dire ça ainsi, pour justement limiter les dégâts de son côté. Il a fait le job, mais Lando Norris a été nettement supérieur, et ça confirme justement, j'ai envie de dire la confiance qu'il y a entre Lando Norris et McLaren, et de McLaren en Lando Norris. On rappelle qu'il a prolongé son contrat au début de la saison, et qu'il y avait jusque à cette officialisation tout de même des doutes par rapport à où est-ce qu'il sera l'année prochaine. Et là aujourd'hui, ça confirme justement les garanties, j'ai envie de dire, de McLaren envers Lando Norris, de lui dire, écoute, tu es dans un projet dans lequel tu peux avoir confiance et dans lequel tu peux te battre peut-être prochainement pour un titre de champion du monde. On rappelle que Lando Norris a refusé Red Bull tout de même, pour rester du côté de chez McLaren. Et là, ce Grand Prix de Chine est quelque peu révélateur de la situation plutôt intéressante et assez excellente tout de même de McLaren vis-à-vis de l'avenir.
Ouais, Jean-Luc, pas surpris par cette perf de Norris, ou tu t'attendais vraiment pas à voir les McLaren à ce niveau-là? En tout cas, la McLaren de Norris.
Écoute, tu sais, le paradoxe, et Alex vient de le souligner, c'est que les équipes eux-mêmes, et c'est pas du cinéma, sont incapables de dire avant ce qu'il va se passer. C'est ça qui est absolument ahurissant avec la F1 telle que nous la vivons en 2024. Les écarts de chrono, à l'exception de la course sprint, Paul est revenu dessus, et à juste titre aussi. Bon, là, il y avait des écarts importants, mais parce que les conditions de qualification étaient particulières, et dans ces cas-là, il y a de l'opportunisme qui joue dans tous les sens du terme. C'est une qualité, bien évidemment. Donc, ce qui a permis à Norris de décrocher cette pole. Ensuite, il s'est fait un petit peu embarquer, on va dire ça gentiment, par Hamilton. Et donc, malheureusement, il a payé l'addition après. Mais je pense que la sprint race, elle pouvait être pour lui également, normalement, vu les performances qu'il a révélées. Puis, tu sais, la sprint race, j'allais dire, c'est à une manière d'évaluer. Bon, vous savez que je ne suis pas un grand fan de ce système, mais bon, c'est là et on fait avec. Et ce que ça apporte comme information, et d'ailleurs, toutes les équipes le disent, surtout maintenant qu'on a enfin, à la quatrième année, mis un règlement cohérent, parce que c'était une aberration, le déroulé du week-end, je l'ai dit.
Alors ça, justement, Jean-Luc, rappelle-nous un petit peu le nouveau format. Qu'est-ce qui a changé là sur ce week-end de course et de course sprint?
Écoute, ce qui est logique et rationnel, il y a une séance d'essai libre, là, il faut travailler très vite et très bien, en une heure à peine, et compte tenu de la température, il faut régler la monoplace déjà pour la première qualification, celle de la course sprint. Et là, on est dans un déroulé logique qui a lieu donc le vendredi par la suite. Et puis ensuite, on a la course sprint. Donc, on a réglé la voiture en fonction des qualifications et on prend le départ. Et après, on passe aux qualifications du Grand Prix en lui-même. On passe au registre Grand Prix avec les qualifs. Et on a le droit, naturellement, de modifier les réglages de la voiture. Et c'est heureux, en tirant les enseignements, notamment de la course sprint. Parce que sur 19 tours, on l'a vu, pour certains qui sont partis avec les pneus soft. Et ça a permis justement de tester la qualité de ces pneumatiques, c'est le cas de George Russell, de voir que sur 19 tours, on peut les emmener au bout, mais que c'est pas évident non plus. Alors, je répète, avec la température qui régnait, qui n'a pas été celle du Grand Prix. Comme vous le savez, entre-temps, les conditions météo ont beaucoup changé. Bref, les enseignements de la sprint race sont utiles pour régler les voitures pour la qualif, et puis également définir des stratégies pour le Grand Prix. Ça me va mieux déjà, c'est un peu moins stupide. Il y a une logique quand même. Mais enfin, c'est malheureux qu'il a fait attendre la quatrième année pour arriver à ça, tu vois. C'est un petit peu comme les points, où au début, on en donnait plus, moins, pas à tout le monde. Bon, maintenant, c'est logique, 8, on descend jusqu'à 1. OK, pourquoi pas. Mais tu vois, c'est quand même paradoxal d'entendre Verstappen qui remporte les courses sprint et que ça lui réussit vachement bien. Je veux dire, ça lui permet de creuser l'écart, on va dire, et pourtant, il est contre. Il dit, je suis plus heureux de ma pole pour le Grand Prix que de ma victoire dans la course sprint. Moi, je crois que tout est dit.
C'est clair. Alex, juste, on termine sur cette petite parenthèse sur la course sprint là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau format, toi aussi, conquis ?
Plutôt assez conquis. J'aime mieux le format maintenant à l'heure actuelle, dans le sens où le samedi est peut-être un peu plus challengeant pour les écuries auparavant, et surtout la problématique du format de l'année précédente, c'était qu'on avait un samedi qui était uniquement dédié à la sprint, et donc de ce fait là il y avait peut-être moins d'envie, d'engouement justement pour avoir un samedi réellement très intéressant pour les écuries et se donner justement peut-être de la motivation réalisée des performances dans une journée qui ne comptait pas beaucoup, j'ai envie de dire ça ainsi, pour les écuries, même surtout pour les pilotes, notamment Max Verstappen qui déjà n'aime pas du tout le format des courses sprint. Là, on a une course le matin et ensuite la séance de qualification l'après-midi, et ce qui amène beaucoup plus d'implications, et surtout ça me permet, comme je l'ai dit, d'avoir un samedi matin avec la course qui permet de tirer des enseignements, surtout au niveau de la compréhension de comment la monoplace peut se comporter au niveau des pneumatiques sur les longs relais, parce qu'il faut rappeler que durant la première séance de Célim, il n'y avait que 60 minutes, donc s'il y a des drapeaux jaunes ou des drapeaux rouges, ouais, bah c'est très très, très 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 difficile d'aller tirer des enseignements, notamment Pierre Gasly, hein, Pierre Gasly avec Alpine, il a dit j'ai rien pu en tirer de la première séance d'essai libre. Donc c'est dire réellement à quel point finalement cette course sprint est intéressante du point de vue des points, parce que le field est extrêmement resserré et il faut aller chercher le plus de points possible dans ce genre de situation et avec les opportunités à aller chercher, et en même temps aussi d'aller récupérer le maximum d'informations.
Tiens, je ne vous ai pas donné d'ailleurs le classement de la course sprint, hein, c'est Verstappen qui s'est imposé, mais devant Lewis Hamilton, il y avait du mieux pour Lewis sur cette course sprint. Sergio Perez finit 3 et c'est Alonso qui termine 4e devant Sainz, Perez et Leclerc. Voilà pour le classement de la course sprint. On termine cette on referme cette parenthèse.
Excuse-moi, te reprendre. Vas-y. Mon Nico. Non. Oui. Alonso, tu sais qu'il s'arrête, il a un problème et il abandonne.
Ah oui, exact.
Après,
hein. Tu sais, exact, oui. Il abandonne. Ah, oui, totalement. Totalement.
Non, le 4e, c'est Leclerc.
Et il prend aussi 3 ans d'emprisonnement aussi, il fait un Alonso selon les FIA, 3 ans d'emprisonnement.
Voilà. Et taper sur les doigts avec une règle.
C'est ça. T'as raison, mon Jean-Luc. Tu fais bien de me corriger. Les Ferrari, maintenant. Paul, qu'est-ce qu'on en pense de cette course de Ferrari? On le disait depuis le début de la saison dans le paddock RMC, ça va mieux. Jean-Luc nous disait, moi je regarde beaucoup les temps autour, je regarde aussi les perfs en course. Ils se rapprochent un petit peu des Red Bull, c'est satisfaisant. Bon, là, sur ce Grand Prix, ça a été plus compliqué, hein, en termes de perfs.
Bien plus compliqué, tu rappelais le classement de cette course, hein. Charles Leclerc termine à quasiment 24 secondes de Max Verstappen, Carlos Sainz, l'unique vainqueur chez Ferrari cette saison, la saison dernière aussi on le rappelle, hein, à Singapour, termine à quasiment 34 secondes. On a quand même l'impression qu'il y a un net recul, hein, chez la Scuderia Ferrari qui avait bien démarré son championnat et qui est en train de marquer le pas. Alors les forces en présence, on les connaît depuis le début de la saison avec Red Bull, avec pourquoi pas McLaren, hein, qui s'invite au podium, même si c'est une surprise pour Lando Norris. Ouais, peut-être un manque de performance. On a vu Charles Leclerc à l'aise avec son premier train de pneus, lui qui a beaucoup souffert, hein, avec son train de pneus durs. C'est un petit peu difficile lorsque vous n'êtes pas brillantissime en qualification et vous payez un petit peu les pots cassés avec peut-être un déficit de performance qui amène donc les Ferrari au 4e et 5e rang. C'est le point noir pour les hommes de Fred Vasseur, hein, de terminer loin du podium en 4e et 5e position. Ça risque peut-être d'être difficile, Nico, dans les semaines à venir pour les pilotes de la Scuderia.
Et comment on peut expliquer ce petit recul là, Jean-Luc, côté Ferrari? Est-ce qu'il y a une explication technique?
Je vais te dire, ils sont en train de se gratter le crâne fortement, parce que si on les entendait avant, et moi je le pensais aussi, on pensait que les Ferrari au contraire allaient être très très proches des Red Bull, et en tout cas devant les McLaren pour être clair, et ça n'a pas été le cas. Alors bon, on va encore évoquer les conditions particulières qui ont prévalu pour les qualifications de la Sprint Race et même pour la Sprint Race, parce que évidemment on le sait, quand t'es mal placé sur la grille, bah après t'as du mal à revenir, hein. Ouais. C'est toujours à peu près la même histoire. Carlos Sainz donc était 5e sur la grille, effectivement, c'est vrai. Charles Leclerc 7e, c'est pas terrible, mais bon, on va mettre ça sur les circonstances. En course, on a vu que bah ils sont un peu revenus, 4 et 5, mais bon, vous savez que j'aime bien les temps autour, hein, j'y reviens, ils étaient pas formidables, hein, les temps autour, parce que
bah oui,
une 41 et 3 millièmes pour Charles Leclerc quand Verstappen tourne en 1.40.331, c'est pas mal, mais et même Lewis Hamilton en 1.40.420, tu te rends compte? Donc ça veut dire que les Ferrari n'étaient pas vraiment dans le coup. Alors on a mis à profit ce sprint pour essayer de faire mieux en qualif, et ben paf, c'est raté. Leclerc seulement 6e avec 8 millièmes d'écart par parenthèse par rapport à Carlos Sainz. Alors là aussi, parce que le débat on l'a eu, hein, est-ce que Leclerc, oui, avait raté son début de saison par rapport, ouais, à Sainz? Bon, il a remis le compteur un petit
totalement
peu dans le bon sens. Il le devance en qualif de très peu et il le devance en course de 10 secondes. Paul le rappelait tout à l'heure. Bon, on l'a remis les pendules à l'heure du
c'était
côté
important,
de Charles.
Moi, je pense, hein, vraiment, hein, tu vois, oui, qu'il le fasse sur ce Grand Prix-là.
Ah, mais non, mais c'est clair. Mais en revanche, les raisons, bah écoute, sincèrement, je suis incapable de te les donner. On va attendre Miami, qui est le prochain Grand Prix, avec des conditions encore radicalement différentes. A priori, évidemment, la chaleur, voire la chaleur étouffante, mais également un week-end avec course sprint. Donc ça, c'était pas le cas l'an dernier. Et voilà.
C'est peut-être la gestion de ce week-end qui rebat l'écart totalement. Tiens, on va écouter Charles Leclerc au micro du diffuseur Canal Plus sur la stratégie des Ferrari en course.
On était sur une plutôt bonne stratégie. Après, malheureusement, avec le safety car, ça a mis un peu tout le monde sur la même stratégie. Et sur les hards, on a trouvé beaucoup plus de difficultés que ce qu'on pensait. McLaren était beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait sur les hards. Sur les médiums, je pensais que le podium encore était jouable. Et après, sur deuxième stint, j'ai compris que ça allait pas être possible.
Ça montre un truc, Alex, tout ça quand même, c'est qu'un week-end avec la sprint race, c'est complètement différent d'un week-end plus classique. Et qu'il faut vraiment que les écuries soient capables, si jamais elles veulent aller loin dans cette saison de Formule 1, de gérer ces deux configurations qui sont très différentes à chaque fois, hein. Que ce soit dans la préparation de la course, dans la préparation des pilotes, dans tout ce que disait Jean-Luc, les réglages techniques pour la sprint race, pour le vrai Grand Prix, quoi. C'est quelque chose de très différent, hein. Et peut-être que Ferrari, là-dessus, c'est un petit peu moins bien géré que McLaren.
Ah bah c'est extrêmement challengeant, hein, les courses sprint. Et justement, alors il y a plusieurs points qui sont assez intéressants par rapport à la squadra Ferrari, par rapport à ce week-end. Déjà, d'une, ils ont été surpris par McLaren. Je pense déjà McLaren elle-même a été surpris par rapport à leur performance. Mais oui, c'est déjà un élément extrêmement important. Le deuxième point, c'est aussi le fait que justement Ferrari a révélé et a affirmé, justement par la voix de Frédéric Vasseur, que eux-mêmes ils avaient fait beaucoup d'erreurs, notamment dans la compréhension par rapport à ce Grand Prix de Chine, la préparation par rapport à ce Grand Prix de Chine. Il y a le fait aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a au-delà même de Max Verstappen, bien sûr il y a le fait de Sergio Perez qui est possible de pouvoir aller chercher, mais il y a aussi McLaren, il y a aussi Mercedes qui devait être dans la bataille, ils n'ont pas été là. Mais c'est juste pour tout simplement dire que il y a un fil qui est extrêmement resserré. Vous préparez très mal votre week-end, vous êtes capoute directement par rapport à la concurrence qui eux vont toujours eux aussi sortir des excellents week-ends. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs de la part de Scuderia Ferrari, mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté on a Frédéric Vasseur qui dit nous on a fait des erreurs dans la préparation de week-end et également dans la compréhension de la monoplace, donc on n'a pas sorti tout le potentiel de la monoplace. Mais d'un autre côté on a les pilotes qui disent aussi oui, mais nous ce qu'on attend c'est les upgrades qui arriveront à Miami. Donc il y a une petite différence de discours qui peut-être laisser penser qu'il faut peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, pas remettre les pendules à l'heure, mais presque quasiment, pour juste dire, bon, il faut peut-être aussi s'accorder sur, j'aime pas dire les excuses, parce que Frédéric Vasseur ne cherche pas d'excuses, encore une fois. Mais pour les pilotes, parfois, il y a peut-être des excuses qui sont peut-être en train de trouver. Je pense pas que ce soit les upgrades qui doivent absolument arriver vite pour la Scuderia Ferrari, même si, forcément, dans une saison, elles doivent arriver extrêmement vite, sincèrement. Mais c'est surtout une façon de voir que Ferrari a fait des erreurs, mais il faut aussi que les pilotes aussi peut-être disent aussi que c'est pas seulement une question d'upgrade.
Ouais, c'est clair. Alors ces évolutions, on va voir ce qu'il y a.
Juste, Nico, si tu permets un petit détail, parce que c'est important, pour compléter en plus ce que vient de dire Alex et ton lancement, Sainz s'était arrêté au 18e tour, d'accord ? Il était parti en médium et il avait monté les pneus durs. Bon, jusque-là, stratégie, on va dire, à peu près normale. Verstappen, par exemple, s'était arrêté au 14e tour. Tu vois, c'est toujours bien de replacer dans le contexte. Perez s'est arrêté au 14e. Alonso s'est arrêté au 12e. Et ensuite, on a le safety car. Et alors là, on entend Leclerc à la radio qui dit on est sur le plan D. Le plan D, ça voulait dire d'emmener, évidemment, s'arrêter qu'une fois et aller plus loin. Et puis, évidemment, on profite du safety car. Donc, on arrête Leclerc au 22e tour. Et voilà la fin du Grand Prix. On l'a annoncé, il y a 4 tours d'écart entre Leclerc et Sainz. Et apparemment, une monoplace un peu mieux équilibrée en course pour Leclerc. Alors, je voulais rajouter une chose aussi. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. C'est que la masse de carburant qu'on emporte évidemment en sprint, c'est le tiers de celle qu'on emporte pour le Grand Prix, et c'est vachement important, parce que c'est pour ça qu'on peut se permettre avec Russell de partir en soft par exemple et puis de voir ce que ça donne. Ça n'a pas empêché, tu vas me dire, et j'allais y venir aussi, de voir Tsunoda, Sargeant, Hamilton notamment et Lance Stroll partir en soft pour la course du dimanche, mais ils ont 3 fois plus de carburant. Et peut-être la réponse est dans la question. Tu me vois venir.
Ouais. La gestion du poids en course avec ce fameux carburant. T'as raison, Jean-Luc. Paul, on va aussi revenir sur la course d'Alpine, parce qu'on a été dur avec Alpine depuis le début de saison, à juste titre d'ailleurs. Alpine n'est plus dernier déjà. Ça c'est la grosse info au championnat, au classement des constructeurs.
Ouais, ils sont passés.
Ils sont passés devant Sauber. Non mais quand il y a des choses bien, on le dit, Alex. C'est important aussi.
Je suis le premier à le dire. Je suis le premier optimiste.
On l'a dit tout à l'heure, au porte des points, Ocon 11e, qu'il y avait des évolutions sur cette course. Jean-Luc, c'est ça. Il y avait un nouveau
fond de plat.
Un nouveau fond de plat, c'est ça. Plus. Que Gasly n'avait pas.
Non, c'est ça, exactement. C'est la différence entre les deux. Alors, les temps en course, là aussi, vous me voyez venir. Le paradoxe, c'est que c'est à l'avantage de Gasly, parce qu'il l'a fait au 40e tour et Ocon, c'était au 33e. 1:40, 937 pour Ocon. Et Pierre Gasly a tourné en 1:39,198. Mais bon, les circonstances étaient différentes. Hein.
Ouais. Paul, ça doit faire un... C'est un ouf de soulagement total, on imagine, du côté de chez Alpine, parce qu'il commençait à y avoir le feu. Le fait de se délester de cette dernière place, même si c'est que très psychologique, même s'ils ont toujours marqué aucun point, on le sait, ok. Mais le fait de terminer 11e, de matcher pour les points, d'être à 2 secondes de la 10e place et de la Haas qui était devant Ocon, ça doit faire beaucoup de bien là, à Viry Châtillon et à Enstone.
Hein. Ouais, même si je ne suis pas aussi optimiste que toi, Nico, hein, un gros ouf de soulagement quand même. Jean-Luc le précisait, des améliorations donc pour la monoplace d'Esteban Ocon. Hein. Pierre Gasly, lui, avait l'ancienne monoplace justement du pilote normand. Effectivement, on se rapproche un petit peu. 11e pour Esteban Ocon, mais on est quand même encore tellement loin des points à la régulière. Hein. On reparlera tout à l'heure de l'incident entre Lance Stroll et Daniel Ricciardo. Effectivement, ça, c'est un petit peu mieux, mais pas vraiment bon quand même, hein, sur le Grand Prix de Chine. Et on sait qu'à Miami, les Alpines risquent de souffrir encore. Ce sera dans 2 semaines. Petit ouf de soulagement au classement. Toujours pas de points marqués. Il faudra compter sur la chance, sur des abandons pour voir les Alpines rentrer dans le top 10 d'ici, en tout cas, à la mi-saison. D'ailleurs, on a pu entendre les réactions, et on les entendra certainement, de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon, hein, teintés quand même de pas mal de méfiance par rapport à cette monoplace qui ne marche pas depuis le début de la saison. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que Esteban Ocon et Pierre Gasly ne s'attendaient pas à vivre un calvaire aussi important depuis cette saison.
C'est clair, mais est-ce que Alex, c'est un résultat en trompe-l'œil pour toi, cette 11e et 13e place, ou il y a vraiment du mieux?
Il y a du mieux, mais oui, c'est quand même un résultat en trompe-l'œil, parce qu'il y a quand même tout de même des abandons importants, forcément, parce que devant, il y avait normalement Lance Stroll aurait dû terminer devant aussi les Alpines. Il y a aussi la référence forcément Nico Hülkenberg avec une modeste Haas et plus rapide toujours à l'heure actuelle qu'une Alpine amélioré entre les mains d'Esteban Ocon, malheureusement. Donc oui, c'est un peu un résultat en trompe-l'œil, mais il faut, dans ce genre de situation, quand il y a une telle situation catastrophique et même dramatique sportivement parlant, il faut regarder toujours le positif, parce que si on regarde toujours tout ce qui va mal, c'est terminé, mentalement ta saison elle est terminée et tu ne peux pas avancer.
J'aime quand t'as ce discours, un petit peu de positif là, autour de l'équipe
française. Mais oui, mais c'est vrai, et le, bien sûr, Esteban Ocon, c'est une amélioration, des améliorations au niveau du fond plat qui sont forcément importantes vis-à-vis du futur de cette A524, mais la problématique, c'est de voir comment elles ont amené vraiment de la performance. Et quand tu regardes un petit peu les sur l'ensemble du rythme de course par rapport à Esteban Ocon et Pierre Gasly, bah, il n'y a qu'un petit dixième remporté par rapport à Pierre Gasly, qui, on rappelle d'ailleurs, a eu une course quelque peu ruinée justement par un arrêt au stand qui a été loupé du côté de chez Alpine. Fort heureusement d'ailleurs, le mécanicien il va bien, mais c'est pour remettre réellement dans le contexte que Gasly a été quand même quelque peu proche d'Esteban Ocon tout au long du week-end du Grand Prix.
Ouais, on va écouter Esteban Ocon sur son résultat et sur l'amélioration de la voiture.
C'est pas trop la récompense qu'on a espéré avoir à cette course, malheureusement. Je pense qu'on a vraiment tout maximisé depuis hier, donc ouais, c'est dur d'échouer à 2 secondes du top 10, parce que ça aurait été vraiment une belle fin d'avoir ce point qu'on a cravaché pour avoir, clairement. Donc on n'a pas réussi à l'avoir, c'est notre meilleur résultat de l'année et il faut qu'on continue à progresser dans ce sens. C'est pas sûr qu'il y ait des grosses améliorations avec ce qu'on a fait ce week-end. Je pense que les deux voitures étaient mieux, les deux voitures on fait un step en avant, clairement, comparé au reste du week-end. Je pense que le poids a joué. Après, est-ce que la charge aérodynamique aussi a fait ce qu'on pensait? J'en suis pas sûr encore. Il va falloir qu'on analyse bien. Je pense qu'on n'a rien laissé sur la table ce week-end.
Voilà, Ocon au micro de Canal+. Jean-Luc, il souffle un peu le chaud et le froid là, Esteban. Oui. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif dans son discours, parce que bon, on l'a dit, c'est le leader aussi de cette écurie, que voilà, ils sont ultra ultra corpo, hein, que ce soit Gasly ou Ocon, ils tirent jamais contre leur écurie. Mais bon, chaque fois qu'il y a une petite phrase un peu positive derrière, bam, c'est contrebalancé par un truc qui dit non, mais je sais pas en termes de pair si ça va vraiment nous apporter. On sait pas trop sur quel pied danser, quoi.
Écoute, Paul et Alex viennent de le souligner. Les pilotes, eux, ils n'ont qu'une ligne de conduite, c'est être optimiste. Parce que sinon, bah, comment veux-tu donner tout ce que tu as à 150% et on peut leur faire confiance à tous les deux, ils l'ont déjà démontré, si tu te dis, si tu as un doute, si tu es sur le back foot, comme on dit en anglais, non, tu peux pas. À partir du moment où ils baissent la visière, ils sont à fond, et j'allais dire même quand ils arrivent dans le week-end, eh bien, ils n'ont qu'une solution, c'est d'exploiter le matériel qui est malheureusement limité. Alors, une nouvelle fois, je relativise, parce que l'écart qui sépare les Alpines des meilleurs n'a jamais été aussi étroit. Seulement, voilà, le problème, et c'est le problème de la Formule 1, quand on ne progresse pas suffisamment vite, ou en tout cas au rythme des autres, eh bien, on régresse. Donc, c'est ce qui se passe. L'écart en temps et en perte n'est pas énorme. Tu sais, on parlait de poids il y a un instant. Bon, apparemment, ouais, ils ont gratté un petit peu de poids, puisqu'ils avaient du mal de ce côté-là avec la 524. Mais on disait, alors là aussi, le lieu commun, c'est de dire que 10 kilos, on parlait pour les pilotes, hein, avant qu'il y ait, tu sais, cette masse qui soit ramenée à 80 kilos, 10 kilos chez un pilote, ça représentait environ 3 dixièmes au tour. C'est une moyenne. Ça dépend des circuits, bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, les F1 ont pris énormément d'embonpoint. On est plutôt autour des 900 kilos maintenant. Moi, je te parle de monoplace qui, à vide, pesait 540 kilos. Donc, tu vois, on peut dire que ça relativise, entre guillemets, le handicap de poids. 10 kilos aujourd'hui, c'est peut-être pas 3 dixièmes, mais c'est peut-être 2 dixièmes selon les circuits. Donc, effectivement,
ben oui.
Alors à la fois c'est beaucoup de dixièmes, parce que si tu reprends la grille de départ où les perfs en course, ben c'est énorme, et puis d'un autre côté, ben c'est pas le jour et la nuit du tout, hein. On l'a vu entre les deux Alpines, donc je comprends, moi, leur retour après Grand Prix un petit peu mitigé.
Ouais, c'est aussi, ça, on sait, ouais, pas en fait.
Bah non.
Tu sais pas si c'est une perf qui sort un petit peu nulle part, s'il y a des évolutions. Vas-y Alex.
J'ajouterais juste quelque chose par rapport aux pilotes. Il faut absolument aussi rester positif du point de vue des pilotes pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, ne serait-ce que bien sûr par rapport à leur avenir, parce que c'est forcément quelque chose qui rentre en compte, forcément par rapport au fait qu'ils sont en fin de contrat tous deux à l'issue de cette saison.
Mais oui.
Est-ce qu'ils vont rester du côté de chez Alpine ? C'est une toute autre question, bien sûr. Mais s'ils viennent à partir et s'ils sont à la recherche d'autres écuries, quelle serait la plus mauvaise des publicités de se plaindre absolument tout le temps d'une voiture, de tout le matériel qu'on a ? Ça serait même, on va dire, dans les situations difficiles par rapport à leurs peut-être prochains employeurs, de dire que dès qu'ils sont dans une situation difficile, eh bien, ils se comporteraient ainsi.
Et puis,
bien
dernier sûr, point, si vous permettez, dans les contrats, ils ont des clauses. C'est interdit de
aussi
critiquer l'écurie.
Oui.
Ça commence comme ça. On a vu comment ça tombe, hein, même pour les plus grands. Donc, il leur est interdit de critiquer leur écurie. Donc,
c'est
voilà,
terminé la grande époque, hein, Jean-Luc, où on mettait des tirs un peu à ses ingénieurs.
Il faut reconnaître que oui.
Ben oui, pour le coup, il y a un autre pilote, Lewis Hamilton, qui se plaint énormément,
ouais,
pour le coup.
Hein, oui. Mais bon, lui,
oui, mais il s'en fout, il part, lui.
Ouais, c'est ce que j'ai dit.
Il a le contrat.
Et puis,
alors,
messieurs, on pourrait quand même se poser la question, pour clôturer le sujet sur ces deux pilotes français, hein, de grands talents, évidemment, de savoir si à la fin de cette saison, ils pourraient, pourquoi pas, ne pas quitter la Formule 1 pour se tourner vers une autre forme de course automobile. Pourquoi pas, Jean-Luc, évoquer l'IndyCar, car
ah, tu
lorsque
penses
ça ne fonctionne pas, ça devient compliqué. Alors, Lewis Hamilton, c'est certainement l'un des plus grands pilotes de tous les temps, qui peut critiquer, qui a déjà signé chez Ferrari. Pour Pierre Gasly et Esteban Ocon, on pourra peut-être se poser la question si les Alpines continuent bien de fermer la marge de ce plateau.
Je crois que c'est pas la tendance quand même. Hein. Je pense, enfin, d'après nous, en tout cas, les infos qu'on peut avoir, c'est que je pense que on sait que Pierre Gasly en plus a une année en option. Donc voilà, Esteban Ocon est peut-être plus sur le départ en termes d'opportunité que Pierre Gasly. Bah,
il aimerait
Gasly
bien le baquer Mercedes, lui, hein, mais.
Tiens, on va écouter Pierre sur son pit stop totalement raté. Jean-Luc, t'en parlais tout à l'heure, là, la roue arrière droite avec un mécanicien qui s'est fait une vraie frayeur. On va l'écouter sur sa course et ce fait de course.
Il va falloir qu'on analyse exactement ce qui s'est passé. La lumière est passée verte pour que je puisse y aller. En fait, le pneu n'était pas attaché, donc vu le mécano qui va bien, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et puis ça nous a fait perdre bien sûr beaucoup de temps. Moi. Après, on a réussi avec le safety car à revenir. Ce week-end, on savait qu'il fallait essayer de limiter la casse sans les améliorations de mon côté. Mais je pense que ça a été un des week-ends les plus construits depuis le début de la saison.
Voilà, Pierre Gasly avec nos confrères du diffuseur. Un de nos week-ends les plus compliqués de la saison.
9 secondes au stand, il a passé, ouais, le pauvre. Hein. Alors ouais, que ouais, allez, même eux, on va dire d'habitude, c'est 3 secondes. Hein.
Il a perdu. Tiens, d'ailleurs, il y a un chiffre qui est tombé sur les arrêts au stand. Est-ce que vous avez vu les chronos des pit stops de Verstappen et de Red Bull ce week-end ?
Incroyable.
C'est violent. Non,
hein. Incroyable. Non,
je crois qu'il y en a un, c'est 1,90, 1 seconde 90, 1 seconde 9, et l'autre, c'est 2,18.
Ouais, 2-0 et 2-1. 2-0 et 2-1. 2-1 pour Verstappen et 2-0 pour Sergio Pérez qui était vraiment qui a emboîté le pas du champion du monde.
Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Valtteri Bottas, qu'il a pas donné, il y a eu l'arrêt au stand effectivement des deux Red Bull et lui il s'est arrêté, il est passé par le stand Red Bull et il a vu de ses propres yeux, il s'est arrêté pour voir l'arrêt au stand des Red Bull. Lui forcément du côté de Chase Sauber, c'est catastrophique, il a dû se dire mon Dieu, le travail qu'il y a à faire.
Ouais, on boxe pas dans la même catégorie.
Lui il était sur l'aire d'autoroute, il est descendu pour faire le plein, Valtteri, c'est terrible. Les gars, ce Grand Prix de Chine a été aussi marqué par cet incident, Jean-Luc, entre Lance Stroll et Daniel Ricciardo. Explique-nous ce qui s'est passé. On a entendu dans la prod tout à l'heure, quand tu commentais, Stroll qui a une erreur de pédale, enfin encore une erreur de pilotage un petit peu grotesque pour Lance Stroll, qui en plus a accablé Ricciardo. On va juste écouter le son de Lance Stroll qui revient sur cet incident avec la Racing Bull de Ricciardo.
Je pense qu'il y a quelqu'un en avant qui a freiné, je sais pas c'est qui. Et après ça, c'est un Constantina effect. Alors je pense que tout le monde a freiné et moi j'étais le dernier qui a touché Ricciardo.
Voilà, alors, Lance Stroll qui revient sur cet incident.
Ouais. À sa décharge, si tu veux, bon, on va dire deux choses. La première, c'est que peut-être les freins avaient perdu un peu de température. Vous savez tous que les disques en carbone, ça fonctionne à peu près à 1000 degrés. Alors, c'est pas une excuse, encore une fois. Hein. Tout le monde, c'est pareil, mais c'est une explication. Et puis, effectivement, ce qui dit, s'il y en a un ou deux qui freinent un peu plus fort devant, forcément, il y a, par l'effet qu'on connaît bien dans les embouteillages parisiens, par exemple, le troisième ou le quatrième, lui, il plante. Voilà. Donc,
Toi, tu les connais plus, tu roules en moto maintenant.
Voilà, c'est ça. Mais enfin, bon, c'était pour faire un parallèle. Et quand parisien, c'est partout pareil dans le monde. Hein. Bon. Mais c'est vrai que ça fait un peu ridicule, quoi. Il faut être clair. Surtout qu'il l'a quand même bien envoyé en l'air, le pauvre Ricardo, si je peux me permettre. Et puis apparemment, on a appris après que Piastri avait également eu des dégâts, puisque oui. C'est la raison pour laquelle il demandait à ses ingénieurs, il dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des dégâts? Alors c'est ça qui est rigolo maintenant, c'est qu'avant, c'était le pilote qui donnait des infos aux ingénieurs dans les stands en disant, je sens ci, je sens ça. Maintenant, c'est le pilote qui demande aux ingénieurs de vérifier comment ça va sur sa voiture. Et ils l'ont dit, oui, les dégâts sont tout à fait significatifs, ce qui est la raison pour laquelle le pauvre Piastri a glissé un petit peu dans le classement pour terminer 8e. Juste un mot sur les arrêts au stand, si vous voulez bien. Je sais que je reviens sur le sujet d'avant, mais quand même le dire parce que ça me tient à cœur. Moi, je trouve, c'est fantastique, on change les quatre pneus en une seconde neuf, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en parlant poliment? Moi, je préfère le système IndyCar, et là aussi, j'ai regardé le Grand Prix de Long Beach, donc je peux vous en parler, où on limite le nombre de mécaniciens, il y en a 7 ou 8 maximum, bien sûr qu'ils mettent un peu plus de temps, mais tout le monde est pareil. Donc, si tu veux, on risque moins ce qui peut être tragique, là. Hein. Pierre l'a dit, le feu vert s'est allumé, comme on est vraiment dans le dixième, voire dans le centième de seconde, c'est pas la première fois qu'on voit en F1 des choses qui se passent dans les stands qui sont un petit peu limites. Moi, je trouve que... Puis alors, je vais prendre aussi un autre... drapeau, c'est celui des économies. On nous parle d'économies. Au lieu d'avoir 21 mecs autour d'une voiture, si on en a 7, on divise le budget voyage par 3, vous avez compris, au niveau des équipes. Voilà, ça y est, je l'ai dit.
Ouais, c'est sûr qu'en termes de sécurité, cette course toujours au dixième de seconde là, dans les stands, Jean-Luc, ça peut être un peu dramatique.
Bah oui.
Alex, cet incident entre Stroll et Ricciardo, alors bon, il y a ce fait de course et il y a surtout la passe d'armes derrière dans les médias avec Ricciardo qui apprend les déclarations de Stroll dans les médias et qui est vraiment fou de rage quand il apprend que Stroll en fait a dit que c'était lui le fautif. Déjà le pauvre Ricciardo, il a quand même pas alors qu'on a l'impression, encore une fois, que ça allait un petit peu mieux ce week-end. Il n'a pas grand-chose pour lui depuis le début de saison. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et c'est vrai que cette joute, elle a marqué ce Grand Prix, quoi.
Elle a marqué ce Grand Prix parce que Lance Stroll soit rentré dans les Ricciardo, c'est une chose. Bon, ok, malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de faits d'armes, malheureusement, dans l'artillerie de Lance Stroll, qui montre qu'il a eu beaucoup, beaucoup de ce type d'accident de... réellement, j'ai envie de dire, de manque de vigilance. Voilà, Lance Stroll manque de vigilance dans certaines situations. Qu'il y ait eu cet accident avec Daniel Ricciardo, c'est une chose. Mais par contre, la mauvaise foi absolue, de ne pas reconnaître son erreur. C'est jamais de sa faute, Lance Stroll, de toute façon. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup défendu Lance Stroll parce que je trouvais que parfois, il était critiqué, non pas à juste titre, mais là, pour le coup, il est pas défendable sur la situation parce que... Oscar Piastri l'a très bien dit. Il a dit, on est tous au courant de ce genre de situation, qu'il y a dans les restarts, mais on fait attention et aucun d'entre nous s'est crashé. uniquement Lance Stroll. Alonso, il a dû faire attention à Carlos Sainz, Carlos Sainz a dû faire attention à Sergio Perez, et ainsi de suite par rapport aux autres, et là, Lance Stroll, lui, il s'est tapé Daniel Ricciardo. Et la problématique, c'est que Ricciardo, qui est quelqu'un qui est absolument calme, qui est le cool guy forcément du paddock F1, il en est arrivé à s'énerver. Alors bravo, alors pour le coup, j'applaudis Lance Stroll parce qu'il a réussi à énerver un gars comme Daniel Ricciardo, qui est littéralement à moins de Shaolin au niveau du calme.
Il a sa caisse, il y a toi quand même.
Il a tous les... mais voilà, mais tout de même, il reste toujours calme Daniel Ricciardo. Et il y a eu même ces mots très fleuris, on va dire ça ainsi, par rapport de Daniel Ricciardo, excusez-moi pour les mots fleuris, mais il a quand même dit « j'emmerde ce type ». Quand même, il a dit ça à Ricardo, à Lance Stroll. Donc, pour arriver à un tel point, c'est qu'il doit y avoir peut-être un certain ras-le-bol du paddock F1, peut-être, autour de Lance Stroll, parce que, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs faits d'armes autour de Lance Stroll. On se souvient, il y a quelques... Je crois que c'était en 2022, il a satellisé Fernando Alonso lors du Grand Prix des États-Unis. Il y a eu d'autres manques de vigilance aussi également. Il a des défenses quelque peu rugueuses, on va dire ça ainsi, notamment au début même de ce Grand Prix. Je crois que c'était sur Nicole Kenberg ou Kevin Magnussen, ou du moins sur une As, où il a carrément envoyé la As au moment de dépasser dans le bas-côté de la route, de la piste littéralement. Donc ça commence à faire beaucoup autour de Lance Stroll. Malheureusement, ça retombe encore une fois sur lui. Et il y a même, parfois, on peut se dire, est-ce qu'il n'est pas un peu trop dangereux dans ce genre de situation?
Mais c'est un personnage qui laisse personne indifférent, Paul. Lance Stroll, bah déjà, c'est le fils d'eux. Quand t'es le fils d'eux, bon, voilà. Et c'est vrai qu'au moindre petit incident, et puis il est impliqué dans pas mal de casses, il est forcément pointé du doigt, peut-être un petit peu plus que les autres, à juste titre, ou d'ailleurs peut-être à tort, je sais pas, mais c'est à vous de me le dire. Mais
en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il souffre de la comparaison avec son coéquipier Fernando Alonso aussi, hein. Peut-être un petit peu de.
Ouais, mais
de
qui ne souffrirait pas de la comparaison Alonso aussi.
Ouais. On a vu d'autres pilotes, de jeunes pilotes à l'époque, hein, lorsque Fernando Alonso était chez McLaren, hein, on avait vu un certain Lewis Hamilton. Eh bien, c'était certainement déjà à l'époque l'un des plus grands talents de la Formule 1, mais jouer des coudes pour être devant Fernando Alonso pour Lance Stroll, même s'il a quand même une pointe de vitesse, ce pilote, c'est vrai qu'il commet des erreurs à répétition. On peut se poser la question de savoir s'il sera encore en Formule 1 la saison prochaine. Là aussi, avec un papa à la tête d'une écurie, c'est quand même bien plus facile.
Vous le voyez, Jean-Luc, tu le vois bouger l'année prochaine? Tu vois Laurence dire à Lens, ciao fiston?
Non. Écoute, je vais te répondre. Moi, je pense qu'il va encore avoir une année supplémentaire où je pense qu'il ne va pas l'évacuer. Et c'est vrai qu'on toque à la porte, hein, c'est évident. Mais la comparaison avec Fernando, et Paul vient de le rappeler, c'est quand même... Enfin, il est fabuleux, Fernando, il n'y a rien à dire, quoi. Oui. Même là, la stratégie, il tente un coup en mettant des softs. Bon, il en faut, si vous voyez ce que je veux dire, du courage pour faire ce genre de choses, en sachant qu'effectivement il va falloir à nouveau probablement s'arrêter un petit peu plus tard, et ce qui a été le cas, hein. Il n'a pas pu les amener, mais il a tenté le coup, et donc il nous fait un tour en course formidable. D'ailleurs, il fait le meilleur tour, et donc il rapporte un point supplémentaire. C'était audacieux, donc c'est vrai qu'il le défend d'ailleurs, Fernando. Alors aussi, on va l'écouter. Bon, il a bien conscience, c'est vrai qu'aussi il n'est plus complètement tout jeune, Stroll, à la longue, ça fait quand même un certain nombre de saisons qui nous alignent maintenant. Il ne devrait plus commettre ce genre d'erreur, et moi je suis d'accord, c'est Alex, hein, qui disait, oui, là il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire noisette honorable, parce que amende, tout le monde le fait, donc dire bon, là j'ai fait une connerie, désolé. Est-ce qu'il n'était pas en train de farfouiller sur son volant? Alors c'est ça que je voulais dire aussi, ouais. Parce que tu sais que maintenant, les pilotes te disent vraiment, quand ils peuvent parler, ils te disent mais malheureusement, on ne passe pas assez de temps à piloter dans les voitures. Tu dis comment ça? Bah oui, parce que les ingénieurs passent leur temps à leur dire vous avez vu ce que c'est un volant de Formule 1? Tu mets le potard ici, sur telle
NASA
position,
ouais.
Bah, voilà, donc est-ce que c'est pas une excuse, encore une fois, c'est une explication. Est-ce qu'à ce moment-là, Stroll n'était pas en train, pour le restart à venir, justement, de bidouiller pour avoir la meilleure traction possible? Moi, ça m'étonnerait pas. Mais bon.
Il a 25 ans, hein, pour répondre à ta question, Jean-Luc, donc tu as raison. Oui. C'est plus vraiment le petit jeune qui est lancé et qui peut bénéficier un petit peu de l'insouciance et de l'inexpérience d'un pilote de Formule 1. Il a marqué que 9 points aussi, hein, cette saison. Donc par rapport à Fernando, qu'on est à plus d'une trentaine, 31, je crois, de mémoire. Ça commence à chiffrer. Et puis t'en parlais, Jean-Luc, bah, on va revenir sur ça quand même, sur la course de dingue d'Alonso et puis la remontée folle de Lewis Hamilton, qui est passé complètement au travers en qualif, qui est même pas passé en Q2 et qui arrive à rentrer dans les points. Ils ont vraiment mis le feu pendant ce Grand Prix de Chine, surtout que on parlait de l'ambiance tout à l'heure, mais Hamilton, il était ultra soutenu par les fans chinois. Il y a eu deux énormes tifos pour Hamilton et pour Charles Leclerc, donc il était vraiment, voilà, il y avait le public qui était pour lui, et il a su surfer un petit peu sur cette ambiance là pour aller se battre en piste, et on a revu un Lewis Hamilton combatif. Alors même si c'était que pour rentrer dans les points, quand même ça faisait plaisir de le voir aussi agressif.
Ben écoute, c'est pour moi, hein, c'est ça. Oui. J'y vais et puis chacun dira, donnera son avis. Écoute, déjà, il avait fait une course sprint formidable. Hein, parce que c'est ça le meilleur, on a l'impression, même pour Lewis, hein, 7 fois champion du monde, le meilleur côtoie, je vais oser dire, le pire. Et le pire, c'est la qualif du Grand Prix, évidemment, où là, il le dit lui-même, il s'est complètement raté. Alors, on peut se rater sur un tour, mais qu'il n'ait pas les moyens, lui, 7 fois champion du monde, avec le nombre de pôles absolument invraisemblable qu'il aligne, hein, on en est quand même à 104. Record absolu pulvérisé qui se rate comme ça, c'est inadmissible. Et puis d'un autre côté, il nous fait une magnifique remontée, effectivement. Pas facile au début hein, parce qu'il était bien bloqué, on l'a vu, il était un peu empégué dans le trafic. Et puis bon, bah, finalement, on s'arrête comme il faut. Là, je suis en train de regarder, il part avec les softs, il s'arrête très tôt, il voit que ça va pas au 10e tour. On met les médiums, et puis après, bien sûr, comme tout le monde, il profite du safety car au 22e et il emmène les pneus jusqu'au bout. Non, il fait un super boulot en course, là, il n'y a rien à dire. Ouais. Quand on part aussi loin sur la grille, quand on part 18e et qu'on termine effectivement 9e, bah c'est du très beau boulot.
Ouais. Alex, un mot sur la course d'Hamilton et d'Alonso. La fin de course d'Alonso est dingue et puis Hamilton qui a fait le boulot et qui a pris du plaisir au moins ce week-end.
Alors Hamilton, je suis pas sûr qu'il ait pris du plaisir. Alonso, il a peut-être pris beaucoup plus de
attends,
plaisir.
Attends, je me dis, mais je me dis, Hamilton, il passe complètement à côté de sa qualif. Mais tu fais deuxième de la sprint race, t'arrives à rentrer dans les points. Alors que ça aurait pu être un week-end mais dramatique, oui. Catastrophique, tu vois. Bon, quand je dis prendre du plaisir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il a su relever la tête, on va dire.
Oui, il a su relever la tête, c'est vrai, parce que la remontada, on va dire ça ainsi, de Lewis Hamilton, et surtout avec cette W15 qui ne lui convient pas, on va dire ça très clairement, bah, c'est vrai que la remontée est très intéressante, et surtout dans une situation qui est forcément très très compliquée. C'est vrai que, pour le coup, on en parlait justement par rapport à Esteban Ocon et Pierre Gasly, sur le comportement qu'ils peuvent avoir justement par la positivité à amener et à parler justement de la situation de l'écurie. Là, Lewis Hamilton, c'est parti tout ça. Là, pour le coup, ce Grand Prix de Chine, j'ai plutôt ressenti à Lewis Hamilton vraiment pour le coup très désabusé et plus que par le passé sur ce début de saison. Le dire, notamment quand il parle de la voiture, je crois qu'il avait dit le terme ce truc, pour ne pas dire cette voiture, ouais, il a dit ce truc ne tourne pas.
Ça tourne pas.
Bah, cette phrase, elle m'a marqué énormément. On parle quand même d'un pilote qui a bien sûr marqué l'histoire de la Formule 1 avec Mercedes, hein, bien sûr avec McLaren dans ses débuts en Formule 1 de 2007, mais il a quand même marqué l'histoire de la Formule 1 avec Mercedes. Mercedes a marqué l'histoire de la Formule 1 avec Lewis Hamilton, et cette collaboration est en train de se terminer de la pire des manières, malheureusement, par le fait que on reçoit un petit peu de tension entre les deux. Quand Lewis Hamilton dit justement ce truc ne tournait pas, cette voiture est très lente, vraiment il dit clairement cette voiture est très lente là cette fois-ci, Lewis Hamilton, il y a de la frustration d'Hamilton, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un qui suis un énorme fan de Lewis Hamilton et je le montre très sincèrement pour le coup sur les réseaux sociaux, d'accord, mais il faut tout de même avoir un peu d'objectivité et montrer un petit peu peut-être que Lewis Hamilton est peut-être en train d'avoir un comportement qui n'est pas bon vis-à-vis de Mercedes et surtout vis-à-vis de la fin de la collaboration qu'il y a avec Mercedes à l'issue de cette saison. Et c'est quelque peu dommageable, on va dire ça ainsi.
C'est pas à la hauteur de son statut, Paul, peut-être, l'attitude d'Hamilton. Quand t'as gagné autant avec une écurie, alors mais, quelle que soit la cause de la rupture, je sais pas, mais je me dis que tu peux être peut-être un petit peu plus classe quand même, non ?
Ouais, mais mes amis, on le rappelait dans le dernier épisode il y a une quinzaine de jours, Lewis Hamilton a déjà la tête chez Ferrari avec une monoplace qui ne marche pas très très bien parce que.
Ouais, ok, mais c'est pas parce que t'as un nouveau projet que t'es obligé de critiquer. Il a une histoire tellement forte avec Toto Wolff, avec Mercedes, avec tout ce qui s'est passé, ses ingénieurs, cette voiture-là, enfin même pas cette voiture-là, mais les anciennes voitures, ces couleurs-là. Que tu vois, moi, je trouve ça surprenant.
Ouais, ça sent le roussi en tout cas entre Mercedes et Lewis Hamilton. Et c'est vrai que ce n'est pas très très classe de la part d'un si grand champion. Mais on le disait, cette monoplace est quasiment garée. On parlait du recul des Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc. George Russell, qui est aussi un excellent pilote avec une très très belle pointe de vitesse, lui aussi ne fait pas de miracle au volant de cette Mercedes. Donc je pense que Lewis Hamilton, cette dernière saison avec l'écurie allemande, risque d'être encore une fois très très longue. On parlait du calvaire des Alpines, d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. On peut, je pense aussi, messieurs, parler de calvaire pour Lewis Hamilton.
Et puis un mot pour compléter, si vous voulez bien, le visage de Toto Wolff, lorsque en Q1, oui. Je crois que là, c'est pareil, c'est sans parole. Il n'y a pas de commentaire à rajouter. Quand il a vu Hamilton ne pas parvenir à passer la barre de la Q1, il avait un visage, alors à la fois, évidemment, la déception, on peut dire ça, mais il avait presque, en se disant, ouais, ok, ça y est, j'ai compris, il n'y est plus,
ouais, là, pépère,
il n'y est plus. Alors, ah, quand ouais, il y est, parce qu'en sprint, encore une fois, là, il nous sort un tour de folie, et donc, il pouvait peut-être gagner, bon, face à Verstappen, on se demande qui peut gagner, mais bon, il a fait une très belle course, et puis le lendemain, ça ne va plus. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, je pense que la saison va être longue, et puis quand même, hein, pour là aussi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Hamilton, mais quand on se fait régler par Russell régulièrement, et rappelez-vous, je crois que dans la présentation de la saison, j'ai dit, est-ce que l'attitude et le traitement que Mercedes va réserver à Hamilton va être identique alors qu'il part ? Eh ben, je crois qu'on a une partie de la réponse, hein,
ouais,
peut-être.
Je suis d'accord. Ouais.
Mais c'est vrai que la tête de Toto, là, en mode. Bon, là, il nous l'a fait à l'envers, là, Lewis. C'est vrai que c'est assez accablant. C'est assez accablant. Tiens, les gars, je vous ai pas. On va terminer le podcast sur ça, quand même. Cinquième manche de la saison. Votre petit pilote coup de cœur, là, depuis le début de saison. Je pense que je sais ce que vous allez répondre dans la majorité. Mais je commence avec Jean-Luc. Tiens, est-ce que tu as un pilote là qui a marqué un peu ce début de saison pour toi ?
Alors écoute, tu parles des engagés réguliers, hein, sinon je vais te dire Oli Berman.
Oui,
Lui, il m'a bluffé.
Le chouchou de Jean-Luc.
Ah ben moi, il m'a assis là.
T'as raison de préciser, non, mais voilà. On va dire dans les titulaires.
Alors, dans les titulaires, bah, évidemment, Verstappen incontournable, je te dis. Bon, on a beau se dire que c'est le meilleur, mais à ce point-là, moi il me bluffe.
Hein, je pensais pas que tu allais dire Max.
Alors écoute, non, maintenant, je vais quand même essayer d'éclairer un peu mieux. Bah, y a Lando qui fait un boulot absolument remarquable là. Lando, je trouve. Bon, il a toujours pas sa victoire, hein, et je crois que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est peut-être le pilote qui a fait le plus de podiums maintenant et de loin, et qui n'a pas remporté de victoire en Formule 1.
Je vais te dire ça.
Ouais, ça doit être ça. Il doit en être à 116 ou 117 Grand Prix. Il a toujours pas remporté de victoire. Et puis je sais plus combien de podiums. Bon, ça veut dire qu'il est au bord. Là, il fait des courses étincelantes. Là, il a fait une course absolument magnifique. Il lui manque encore un petit peps. Donc, écoute, moi, je sortis. Ben, Verstappen, c'est une évidence. J'enfonce une porte ouverte. Mmh. Et puis, peut-être Norris qui fait du bon boulot. Bon, ouais.
Il a 108 courses disputées, 15 podiums, Norris.
Ben voilà. Et toujours pas de victoire.
Ouais, et toujours pas de victoire. Alex, ton pilote coup de cœur.
Et ben moi, c'est Nico Hülkenberg. Je pense qu'on n'en parle pas assez de Nico Hülkenberg, mais ce qu'il produit avec Haas, c'est absolument exceptionnel. Et on comprend mieux pourquoi, d'ailleurs, le projet Audi a envie d'aller chercher Nico Hülkenberg pour l'avoir, pour débuter son projet dès pour l'amorce du Mans en 2025. Le début de saison de Nico Hülkenberg, vraiment, il est très très bien parce qu'il surperforme avec une modeste Haas, parce que c'est une modeste Haas, même si grâce à Nico Hülkenberg, sur 5 Grands Prix, ça va chercher les points 3 fois grâce à Nico Hülkenberg, une fois par Kevin Magnussen. Et même d'ailleurs en parallèle, Kevin Magnussen, c'est quand même compliqué depuis 2022, depuis l'arrivée de Nico Hülkenberg, ou même d'ailleurs déjà, Nico Hülkenberg se montrait supérieur par rapport à Kevin Magnussen. Donc là, moi, je vais pas dire mon petit chouchou, mais le pilote pour le coup qui m'impressionne depuis le début de la saison, c'est Nico Hülkenberg.
Et pourtant, points, Alex, pardon, un mot, c'est pas un perdant de l'année, hein, il va avoir 37 ans au mois d'août, tu te
rends compte ? Eh oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais. Paul, ton chouchou, bah toi je sais déjà.
Ah bien, non. Alors c'est vrai qu'on parle toujours de Fernando Alonso depuis le début de saison, mais ça va faire sourire Alex et Jean-Luc, évidemment. Non. Alors messieurs, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai envie quand même de parler de Sergio Pérez, car c'est vrai qu'on le compare toujours à Max Verstappen qui enchaîne les victoires, les pole positions, les records du tour, mais quand même depuis le début de la saison, deuxième à Bahreïn, deuxième en Arabie Saoudite, il s'est peut-être un petit peu manqué en Australie. Deuxième au Japon, il termine troisième avec les points de la sixième place de la Spring Race. Il est aujourd'hui deuxième du championnat du monde. C'est le lieutenant, on le sait, de Max Verstappen. J'ai envie de tirer un petit coup de chapeau au pilote mexicain qui, pour l'heure, remplit totalement son contrat, ce qui pourrait d'ailleurs lui valoir une prolongation chez Red Bull l'année prochaine. Donc, petit coup de chapeau pour une fois à Sergio Pérez.
Vous m'avez surpris. Allez, moi, je vote Carlos Sainz.
Oui, bah oui. T'as raison.
Il a gagné, il fait un super début de saison. Bon, même si là il a marqué le pas en Chine, mais Carlos, il est en train de réussir son défi de, à mon sens, de se battre et pour retrouver un joli baquet la saison prochaine. Voilà pour ce petit point coup de cœur. C'était bien sympa pour cette cinquième manche de la saison. Prochain Grand Prix, c'est dans 15 jours à Miami. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode du Paddock RMC dès lundi prochain. Désormais, c'est toutes les semaines qu'on parle Formule 1. N'oubliez pas de mettre une petite note à nos ingénieurs. Jean-Luc Roy, à Paul, à Alex, vous allez sur les plateformes de téléchargement. Vous avez 5 étoiles à mettre. Bon, si vous mettez 5 étoiles, on va pas vous mentir, c'est mieux, mais on ne vous en voudra pas si vous notez mal. Oui, c'est mieux, mais bon, du coup, ça veut dire qu'on doit travailler si on est mal noté, les gars. Donc, on changera des choses.
On peut pas en mettre 6 exceptionnellement.
Eh ben, malheureusement, on peut pas en mettre 6. Je peux essayer de contacter 2-3 opérateurs, mais je suis pas sûr que ça passe, Jean-Luc. Tu sais, j'ai le bras beaucoup moins long que toi.
Hein. Oh là là, j'ai pas
le bras. Nico, pour les étoiles, c'est le guide Michelin, évidemment. C'est
oui, totalement, bah voilà, totalement.
C'est pas mal.
Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prochain Grand Prix à Miami aux États-Unis. Vive la Formule 1 sur RMC. Bye bye.
Salut.
Ciao. Le paddock RMC.